Bonjour, nous sommes sur Aligre FM 93.1. Dans la vie est un roman, nous sommes mardi matin, il est 9h du matin. Et voici que mon invité arrive. C'est formidable. Je salue mon invité, Jean-Baptiste Brun, qui a écrit un livre qui s'appelle « Jean Dubuffet et la besogne de l'art brut, critique du primitivisme ». Et il arrive tout essoufflé. Bonjour. Voilà, c'est formidable, on est content. On voit qu'il y a un problème de micro, le technicien se rue vers nous, Vélos.
Ah, pardon. Décidément.
Merci Gilles.
Merci.
Et donc, Baptiste, je vous laisse respirer.
Ouais.
Donc, c'est paru aux presses du réel. Ça fait un peu plus de 500 pages. Et comment décrire, ça tombe vraiment bien qu'il soit arrivé en retard et essoufflé. Je le vois, moi, comme un espèce d'Indiana Jones armé d'une machette qui tranche les têtes d'une hydre à 100 têtes. Qui repousse sans cesse et qui sont les attributs qu'on donne à l'art brut. Alors j'ai fait ce qu'on appelle dans des termes pédants qui datent du temps du structuralisme, un axe paradigmatique, un paradigme, si vous voulez. Si j'ai la maison est rouge, le paradigme, c'est tous les qualificatifs que je pourrais mettre à la place de rouge. Donc l'art brut est rouge, bleu, vert, etc. Vous voyez. Et donc énumérer ce que n'est pas l'art brut dans le désordre. L'art brut n'est ni naïf, ni médiumique, ni un art d'enfant, ni un art nègre, ni l'art des hommes des cavernes, ni l'art des ouvriers, ni l'art des paysans. Donc n'est pas un art folklorique. L'art brut n'est pas un art dégénéré, un art primitif, l'art des fous, un art de chaman, un art marginal, un art sauvage, un art animiste ou un art exotique. Voilà. Et donc, on va parler de ça maintenant. On aura peut-être le temps d'arriver à des définitions positives. Mais là, on va pratiquer comme Maître Eckhart, théologien médiéval, celui qui instaure la messe dans les langues vernaculaires à Strasbourg. Et donc, qui disait qu'on ne pouvait définir Dieu que parce qu'il n'était pas. Donc, on va définir l'art brut parce qu'il n'est ce qu'il n'est pas. Et donc, c'est un livre qui est très patient, qui travaille sur peu de mois dans un moment charnière de la création de ce concept par Dubuffet. Donc, Dubuffet va créer une compagnie. On va voir qu'il va avoir des problèmes avec André Breton. Disons que principalement, pour résumer ce que je viens de dire, ce n'est pas un art surréaliste, hein, parce que les surréalistes ont beaucoup parlé de folie, d'associations de libres, étaient très partisans de Sigmund Freud, donc il y avait toute une histoire autour de l'inconscience. Ce n'est pas non plus un art de fou, et ce n'est pas un art primitif, parce que le terme a des connotations dont Baptiste Brun va nous parler.
J'espère que je saurai répondre.
Est-ce que ce n'est pas un art surréaliste, par exemple? Prenons comme ça.
Alors,
si c'est la première question qui se pose.
C'est sans doute la plus dure, déjà.
Ouais.
Et si ça va crescendo, je vais exploser en vol avec le retard que j'avais déjà.
Ouais, c'est formidable.
Non, l'art brut, ce n'est pas un art surréaliste. C'est autre chose que cherche Dubuffet. Dubuffet, il est dans une recherche. Il n'ose pas trop définir, justement, dans ces années charnières dont vous nous parlez. Et il fouille. Il va avoir un petit peu dans une manière qui est surréaliste, c'est-à-dire tête chercheuse partout. Chez le brocanteur, chez Ferdière, chez les psychiatres, il va regarder dans les musées d'ethnographie, il va aller au musée des arts et traditions populaires à Paris, il va se rendre au musée d'ethnographie de Genève, il va être en lien avec plein d'amateurs aussi, il va connaître des créateurs aussi, chez ça qui va l'aider dans ses prospections. Il cherche tous azimuts, mais il cherche pas quelque chose qui soit de l'ordre d'un merveilleux, comme le pense Breton. Il y a une dimension chez lui qui pourrait être qualifiée de finalement d'assez agressivement réaliste, quoi. Ce qu'il cherche, c'est l'œuvre en train de se faire. Il appelle ça l'opération artistique. Et c'est pas l'affaire de Breton, ça. Et du coup, l'affaire de Breton n'est pas celle de Dubuffet. C'est aussi pour ça que, je dirais, ils vont un peu se chamailler, pour ne pas dire pire. Et Dubuffet s'extrait de cette question surréaliste, d'autant plus que Dubuffet, dans son individualisme radical, se méfie du système surréaliste. Et puis, qui plus est, même politiquement, je dirais, il n'est pas sur la même longueur d'onde, finalement, que le groupe surréaliste. Et ça, c'est une différence, quoi. Cette question du groupe, d'un côté, et de la recherche d'une singularité radicale de l'autre, il y a cette distance entre les deux.
J'ai essayé d'être précis avec moi-même, si je puis dire. En fait, on s'en fout un peu qu'il soit surréaliste ou pas, mais c'était très important à l'époque. Et on a un Breton qui vient d'être muséifié de façon extrêmement brutale par Maurice Nadeau, qui a écrit une histoire du surréalisme, qui est en perte de vitesse. Et on a un Breton qui est très conceptuel face à un Dubuffet qui est très pratique. Et donc, on a un Breton en courbe descendante, hein, qui va finir dans l'ésotérisme, mais enfin, des choses vraiment assez pénibles. Et on a Dubuffet qui commence, qui va devenir très célèbre très rapidement. Et on est porté par une vague qui est très différente, celle, par exemple, du graffiti. On a le bouquin de photos de Brassailles. Picasso s'intéresse à ses graffitis. On a fait une espèce de... On a une pulsion qui a d'autres racines. Et aussi, bon, il y a sous cet univers... bon, alors, il y a un tas de choses parce que c'est vraiment passionnant. Il y a un point de vue dans votre livre que je partage. Enfin, le point de vue de Dubuffet que je partage totalement, c'est jouer Dada contre le surréalisme. Et déjà là, on a toute cette dimension qui est très différente, qui est iconoclaste, qui est individualiste, qui est anticonceptuelle, qui est extrêmement ironique, qui est acide par rapport à un Breton qui est quand même largement pontifiant à ce niveau-là. Je sais pas, c'est, est-ce qu'on peut dire ça ?
Là, je pense qu'il y a une vraie rupture entre les deux hommes, quoi, et la pensée qu'ils mènent. Alors effectivement, en plus, c'est un moment particulier que ce moment, c'est 44, 45, jusqu'à 51. Là, ça se joue vraiment dans un temps assez contracté, en quelque sorte. Et effectivement, Breton qui rentre des États-Unis, il doit faire face aux attaques, il doit se renouveler, etc. Et en même temps, tous les deux sont dans un mouvement qui prolonge quelque chose qui existait déjà dans les années 20 et 30, avec, je dirais, ce goût des altérités artistiques, de ce qui n'est pas digne d'être de l'art. Mais peut-être que c'est là que ça se joue, justement, cet aspect Dada, c'est sur l'affaire de la dignité des objets qui passent au crible du regard de Dubuffet. Lui, son affaire, et ça va se transformer justement à la fin de cette décennie 40, c'est la culture. C'est ce qu'il commence à voir comme l'ennemi redoutable de l'invention artistique. Et l'art brut, sa quête autour de l'art brut, cette affaire de création à proprement parler. Et je pense que là, la différence aussi est fondamentale entre un Dubuffet qui est un faiseur, qui a les mains dans le cambouis en quelque sorte, et un Breton. Vous parlez d'un Breton conceptuel. Effectivement, Breton, il continue d'écrire, à l'évidence, mais aussi il a ses velléités théoriques fortes avec son système qu'il porte depuis déjà 20 ans à ce moment-là. Et je crois que voilà, il y a une différence d'activité en fait, très clairement. Et en ce sens, oui, Dubuffet qui était avare de payer sa dette à ses prédécesseurs, s'il paye une dette, notamment, c'est à Dada. Ça, c'est un point important de son travail. Alors, peut-être que ce qui va se jouer aussi, je parlais de singularité radicale tout à l'heure, c'est que dans ses recherches, à contrario de Breton, je crois, Dubuffet cherche des choses qui résistent vraiment aux catégorisations effectives de l'époque. Et là, on est dans un moment quand même particulier de cette affaire-là, et c'est là aussi qu'interviennent la question des sciences humaines et sociales dans ce champ-là. Depuis les années 20, 30, ces objets qui étaient jusqu'alors dans le dédain, sinon tout simplement ignorés, eh bien, on commence à les mettre dans des cases. Et Dubuffet, dans une forme de systématisme, va chercher des choses qui échappent aussi à ces formes d'assignation. Et paradoxalement, il va les appeler art brut. Donc le paradoxe est au cœur de la démarche, mais il n'empêche que il va y avoir cette recherche et une énergie assez débordante qui va être mise au service de cette recherche aussi. Et ça, c'est peut-être aussi une différence avec Breton. Breton, il voit des fous. Dubuffet, il voit des gens. Il voit des personnes et il va défendre ces personnes dans cette dynamique un peu individualiste qu'est la sienne. Il va tenter de leur donner des noms, en tout cas de leur redonner des noms à ces gens qui disparaissent sous l'anonymat du primitivisme en général, quoi. Que ce soit le Congolais Loubaki qui aurait été peintre nègre, il devient Albert Loubaki ou il est désigné comme Albert Loubaki. Que ce soit quelqu'un comme Wolfli, c'est pas un aliéné comme artiste, c'est Adolf Wolfli. On restitue le nom et ça aussi, je crois que c'est une différence assez fondamentale par rapport à la pensée de Breton lorsqu'il s'agit de ces anonymes, de ces autodidactes d'ailleurs, comme le dit Breton quand il correspond avec sa fille Aube. Derrière ce truc de l'anonyme, de l'autodidacte, il y a toujours des noms. C'est des inconnus, mais il s'agit de leur restituer un nom. Ça, je trouve que voilà, il y a quelque chose de différent dans la démarche de Dubuffet ici.
Je voudrais dire, pendant que j'y pense, que l'essentiel du livre, c'est de combattre l'idée du primitivisme. Mais on va y revenir après. Mais puisqu'on est en train de parler de Breton, on pourrait continuer un peu là-dessus. Breton a tendance à unifier les choses, à leur donner une espèce de transcendance métaphysique et Dubuffet divise. Hein, donc c'est bien oui, ça, le côté dada. Et donc... il y a un autre aspect avec Breton, c'est le parisianisme. Et Dubuffet va avoir un fort tropisme helvétique, par exemple. Il va beaucoup fréquenter les Suisses. Il va essayer de sortir ce cadre dans lequel il se sent mal. On est après-guerre, il a vendu du vin pendant la guerre. Enfin, il y a un tas de problèmes qui viennent là. Et il y a un mouvement nordique qui s'appelle Cobra, qui réunit des Hollandais, des Danois et des Belges, qui va fraterniser avec Dubuffet, qui va être très proche de ses positions et très proche de ses pratiques, et qui vont l'accueillir dans sa revue, et qui va devenir très violemment anti-breton aussi. Donc on a... Le parisianisme définissait les grandes tendances de l'art, et on a une espèce d'offensive de l'extérieur contre cette place forte. C'est monstrueux. Il y a 50 000 peintres à la Société des peintres en 1950 à Paris. Et ils vont tous faire de l'art informel. Enfin, il y a une espèce d'académisme abstrait, un peu dégoulinant comme ça, qui va prendre beaucoup de place. Et on a en face de ça une espèce de... Dubuffet incarne pratiquement une espèce de classicisme par rapport à ça. Et alors juste pendant que j'y pense aussi sur l'art des fous, il va aller à Sainte-Anne, il va voir 200 pièces et il va en garder 20. On n'est pas dans le concept, on est dans un rapport esthétique, c'est un peu faible, mais on est dans un rapport pratique aux choses. Enfin, c'est l'invention qui prime.
C'est l'invention qui prime.
C'est l'invention qui prime.
Ça c'est un point important. C'est vrai que il y a comme ça des petits documents, des petites archives ou du buffet. Enfin, qui témoigne de ce passage de Dubuffet à Sainte-Anne en 1946. Alors c'est marrant parce qu'il fait des listes, hein, il va voir les objets qui sont présentés dans l'exposition de 1946 qui est organisée par les psychiatres de l'hôpital, et c'est des centaines d'objets qui sont montrés dans cette exposition. Puis Dubuffet, il liste patiemment, il met les numéros, et même quand c'est médiocre, il le dit, il l'écrit, pas très intéressant, très médiocre, etc. Et ce qu'on voit aussi dans cette espèce de chose qui est passée au crible du regard de Dubuffet, ben voilà, ce qu'il cherche justement, c'est le truc inventif, le truc qui ressemble à rien d'autre. Et il ne s'agit pas d'être fou pour faire la chose qui ressemble à rien d'autre. Là aussi, il y a une différence. C'est-à-dire que, finalement, je crois que Dubuffet s'en fout un peu de la question de l'auteur, d'une sociologie de l'auteur comme ça. Ce qui l'intéresse, c'est pas que l'œuvre, c'est pas que l'artiste soit, ou en tout cas que l'auteur soit fou. Ce qui l'intéresse, c'est que c'est l'œuvre qui doit le rendre dingue à proprement parler. Et ça, effectivement, c'est cette singularité qui résiste aussi avec une manière de reconsidérer. bah, ces champs établis, quoi. J'aime bien l'idée de la, du Buffet, c'est un peintre du sol, c'est un peintre géologique en quelque sorte. Et il y a quelque chose de la tectonique des plaques aussi, dans l'exercice qui est celui du Buffet, quand il regarde du côté de l'art brut, ce qu'il cherche, eh ben, c'est les objets qui sont à l'intersection, quoi, qui sont, qui résistent comme ça à ces effets de masse, à ces effets d'homogénéité en quelque sorte.
Oui, on pourrait dire qu'il regarde les choses en se demandant comment c'est fait. Et est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre dans ce faire ? Et Breton regarde les choses en se demandant comment les penser. Mmh. Mais enfin, et alors, l'enjeu décisif du livre, c'est la question du primitivisme. Et de dénoncer le primitivisme comme une espèce de racisme, comme un mépris inconscient ou conscient de l'autre. Hein ? Si on met dans la même catégorie l'art africain et l'art océanien, c'est qu'on voit rien, quoi, en fait. C'est qu'on pense que c'est tous des espèces de fous, de nègres, de sauvages. Et le concept de sauvagerie aussi, c'est l'autre, quoi. Mmh. Le concept de pulsion primitive, tout ça, c'est l'autre. Mmh. C'est l'autre.
Effectivement, ça peut paraître une position un peu paradoxale de dire que Dubuffet, finalement, il est contre le primitivisme. Il est tout contre le primitivisme. Mais clairement, on voit dans ces années-là une énorme tension chez cet homme. D'une part, qui essaye de se dégager de son milieu bourgeois. Enfin, je pense qu'il y a vraiment cette question-là aussi, de se dégager de certains carcans d'idées et autres. Et il y a aussi une énorme tension du côté des vérités toutes prêtes, en fait, qui sont assénées par le milieu artistique, et notamment sur cette question d'art primitif. Alors, faut se remettre aussi à l'époque. Qu'est-ce que c'est l'art primitif à l'époque ? Malheureusement, on utilise toujours cette expression aujourd'hui pour désigner ce qu'on désignait par le passé d'art nègre, hein, finalement, pour désigner tout ce qui était de l'ordre de production artistique extra-occidentale, et en particulier des continents africains et océaniens. Mais avant, c'était beaucoup plus vaste, c'était une espèce de super catégorie où on mettait tout ce qui n'était pas civilisé, parce que le contraire de primitif, c'est le civilisé. Et les théories qui comptent encore dans les années 20, encore dans les années 30, encore dans les années 40 et au-delà, c'est de dire l'art primitif, en fait, c'est ce qui est fait par les enfants, c'est ce qui est fait par ces primitifs sauvages de contrées lointaines. C'est ce qui est fait par l'homme préhistorique aussi, le primitif. Donc une espèce de conglomérat où se retrouve là l'idée de l'ontogénèse qui recoupe la phylogénèse. Hein, l'évolution de l'espèce, c'est l'évolution de l'être. Et donc il y a une forme d'art de l'enfance à l'échelle de l'espèce qui serait cet art primitif et qui... par définition, ne serait pas civilisé. Et là, voilà, Dubuffet, ça, il va dire, ça, c'est des conneries, en l'occurrence. Il va vraiment se concentrer sur ces manières de penser les choses, et il va s'y opposer. Il va s'y opposer avant tout comme peintre, et il va s'y opposer aussi comme écrivain, mais il va surtout s'y opposer aussi avec l'art brut. Et l'art brut ne se substitue pas au primitif, c'est pas l'idée, mais l'art brut, je dirais, déclasse le primitif. Il y a cette idée chez Dubuffet, qui est en filigrane de nombre de ses textes à cette époque, et puis qui est au cœur même de sa démarche. Et d'ailleurs, très vite, il va... se dégager finalement de recherches qui concernent d'autres cultures, parce qu'il estime qu'il faut les connaître, ces cultures, pour pouvoir pérorer dessus. Et il va se concentrer vraiment sur des choses qui sont plutôt européennes, par une forme de, sans doute, de frilosité peut-être et de relents de racisme aussi qui sont à l'œuvre au sein de sa pensée, mais surtout aussi dans une forme de relativisme culturel, quoi. C'est quelqu'un qui va très clairement affirmer que si il étendait ses collections au reste du monde, il lui fallait un lieu comme le British Museum pour le faire, mais surtout il n'avait pas les qualités nécessaires pour statuer sur un art brut qui serait ailleurs. Alors ça, c'est un point important. Mais pour en revenir à cette super catégorie de l'art primitif que pense Dubuffet, que conteste Dubuffet violemment, ça on trouve ça chez des gens comme Luquet, par exemple, à l'époque. Et je disais qu'il travaillait ça dans sa peinture, c'est-à-dire qu'il va reprendre les théories qui sont celles d'un Luquet, commentées par Bataille et d'autres dans les années 30, et puis il va les appliquer au champ même de la peinture, hein, c'est-à-dire en faisant ce que la critique appelait ses bonhommes, en créant des confusions de vues perspectives, des vues de face, des vues de profil, des vues aériennes, etc. Il combine tout ça avec ce que la critique appelait le réalisme intellectuel. On représente ce qu'on conçoit, non pas ce qu'on voit. Alors que l'art du civilisé, justement, c'est le canon de la Renaissance, c'est une vue perspective, mathématique, savante, construite, et l'on donne à voir ce que l'on voit. C'est une affaire d'un regard ici presque monoculaire, en quelque sorte. Ben, Dubuffet, il explose tout ça en se frottant justement à ces théories de l'art primitif à l'époque, tout en les contestant. Parce que finalement, c'est une forme de sophisme appliqué, hein, qui va mettre en place. C'est-à-dire, moi, bourgeois du Havre, vivant à Paris, commerçant, cossu, qui plus est, et qui fait de la peinture et qui s'adonne à la peinture pour le plaisir, parce qu'au début, il s'agit réellement de ça, à la fin de la guerre, eh bien, je peins comme un sauvage. Si on applique l'espèce de réflexion qui consiste à dire cet art est un art primitif parce que il y a tout un tas de critères qui interviennent sur ces questions de mise en œuvre de l'image. Par exemple, une femme enceinte, on la représenterait avec le bébé qu'on voit par transparence au sein de son ventre. Eh bien, on dirait ça c'est du primitif, ça c'est un art primitif. Et Dubuffet dit moi le bourgeois occidental, blanc, parisien, je fais de l'art primitif à ce titre-là. Donc l'art primitif n'existe pas.
Et oui, donc il s'intéressait aux tatouages, aux ex-voto, aux masques. En fait, il cherche quelque chose qui fasse sortir l'art de l'endroit où il est en train de roupiller, quoi, qui le fasse dérailler. Enfin, l'art brut est une activité critique, hein. C'est la conclusion en fait de l'ensemble du livre et de l'ensemble du propos. On ne peut pas le définir parce que ce n'est pas une chose, c'est une activité. Ouais. Hein, on voit bien, on peut imaginer le rapport avec Chessac, mais on peut aussi imaginer, il fait de la musique avec Asger Jorn, avec une collection d'instruments exotiques, c'est la même démarche, hein. C'est-à-dire qu'ils font du bruit puis qu'ils testent. Et c'est le faire passe avant le penser, le réaliser, toute cette production, cette espèce de potlatch permanent, le fait de brûler les choses. Hein. On va faire une petite pause de musique.
Philosophique. Les grandes villes seules peuvent présenter à la spiritualité phénoménologique les essentialités des coïncidences temporelles et improbabilistes. Le philosophe, qui monte parfois dans l'inexistentialité futile et utilitaire d'un autobus S, y peut apercevoir avec la lucidité de son œil pinéal les apparences fugitives et décolorées d'une conscience profane, affligée du long cou de la vanité et de la tresse chapeautière de l'ignorance. Cette matière, sans entéléchie véritable, se lance parfois dans l'impératif catégorique de son élan vital et récriminatoire contre l'irréalité néo-berkeleyenne d'un mécanisme corporel inalourdi de conscience. Cette attitude morale entraîne alors le plus inconscient des deux vers une spatialité vide, où il se décompose en ses éléments premiers et crochus. La recherche philosophique se poursuit normalement par la rencontre fortuite, mais anagogique, du même être, accompagné de sa réplique inessentielle et couturière, laquelle lui conseille nouménalement de transposer sur le plan de l'entendement le concept de bouton de par-dessus, situé sociologiquement trop bas.
Voilà, donc c'était un des exercices de style de Queneau. Et donc maintenant, je vais lire les adjectifs positifs que j'ai retrouvés. Donc on a fait une espèce de définition négative de ce que n'est pas l'art brut. Alors, ce qui se pratique dans l'art brut, encore une fois, ce n'est pas une définition de l'art brut, c'est un mouvement. Hein, il y a l'accident, il y a l'informe. Alors, donc, dans le livre, on parle d'une exposition qui m'avait beaucoup impressionné de Yves Alain Blois et de Rosaline Krauss, Baptiste Brun, qui est là, parle de cette exposition sur l'informe. C'est un concept de bataille. Alors, le hasard, bien sûr, le hasard était le concept central de Dada. Hein, c'est, on met des mots dans un chapeau, on fait une poésie, c'est Tzara, etc. L'instinct, dans un sens, on fait confiance à son instinct, mais on cherche aussi des choses qui est de l'impulsivité, de la spontanéité. Il y a un discours sur l'archétype aussi chez Dubuffet qui est bizarre, mais enfin ça montre un petit peu ses limites intellectuelles, mais ça fait pas référence à Jung, je pense. Il y a le côté rythme, le côté commun. Alors il faut pas entendre commun dans le sens homme du peuple, hein. Il y a un côté petit bourgeois très marqué chez Dubuffet, qu'on entend aussi dans les exercices de style de Queneau, qui a une certaine mise à distance comme ça, mais c'est pas des ouvrières, et c'est le moins qu'on puisse dire. La banalité, le côté libertaire, très important, donc le côté anard. Hein. On a quand même Breton et quelqu'un qui avait adhéré au Parti communiste. On peut difficilement imaginer quelqu'un comme... Toute cette dimension grégaire est totalement absente de la vie du Buffet. On a le côté graffiteur, là, donc j'en ai parlé avant. Et on peut penser, là, puisque la couverture qui est très belle du livre nous montre des pisseurs, on pense tout de suite à Ensor, hein, qui a fait très tôt un personnage qui pisse contre un mur sur lequel il y a des graffitis. Et Georges Gross, qui faisait un inventaire de graffitis dans les toilettes pour trouver une forme... pour exprimer sa rage, enfin c'est ses propres propos, et qui va s'en servir dans ses propres pratiques de cette esthétique du graffiti. Il y a un côté maniaque qui est évident chez Dubuffet, à la fois dans la compulsion à collectionner et dans la façon de travailler, et dans la aussi ce qu'il faut bien voir, bon là c'est vraiment évident, mais ça dépend la familiarité qu'on a avec l'œuvre de Dubuffet, tout côté matière, tout le côté de sortir de comment on sort du format. Hein, il est évident que le conditionnement que subissent les enfants à l'école, les formats, les types d'approches, enfin tout ce qui est standardisé, les crayons, les plumes, ce que vous voulez, les encriers, tout ça, c'est le mal absolu. Donc hein, on essaie de sortir de ces conditionnements. Le côté gribouillage et le côté sauvage, mais alors dans le sens du non-respect des règles admises. Hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce paradigme des qualités positives. Et le but, c'est d'obtenir des résultats imprévisibles. Et donc, on vérifie dans le faire même de l'œuvre qu'on regarde si les résultats étaient prévus ou pas.
Mais ça, Dubuffet, il parle toujours de l'opération artistique. L'opération artistique, c'est son truc, hein, finalement. C'est vraiment cette affaire du faire, effectivement, d'être dans le matériau, dans la matière. Et d'ailleurs, c'est aussi une chose qui le retient beaucoup du côté de l'art brut, quoi. Ce qu'il regarde, c'est comment bosse Forestier avec ses assemblages de bois, les dents de cochon, un morceau de laine ici, etc. Et comment ça fonctionne, ça, comment ça marche, comment c'est mis en œuvre. Même chose avec les broderies de Jeanne Tripier ou d'Elisa Bataille. Ce qu'il fascine, c'est voilà cette invention dans la manipulation et du côté de la main. La main, ça, c'est positif chez Dubuffet. La main, c'est éminemment positif. Quelque chose qui est de l'ordre du tour de main, quoi. D'ailleurs, il parle pas d'œuvre, hein, il parle toujours d'ouvrage. Et comme si ça ouvrait quelque chose de fondamental, mais ça ouvre.
Il parle pas d'artiste, il parle d'auteur.
Et il parle d'auteur. Ah bah ça, l'artiste, c'est l'ennemi. Alors c'est un des paradoxes de Dubuffet, c'est sûr, mais c'est l'ennemi, quoi. Ça, il faut dézinguer l'artiste pour Dubuffet. L'homme du commun, c'est ça. Il y a deux types d'hommes qui sont hors du commun en 1943-44, quoi. C'est le soldat héroïque, finalement, avec ses médailles et décorations, et puis il y a l'artiste, quoi, qui est sur son piédestal. Et ça, il peint quoi ? Il peint des hommes nus en 43-44, dont certains qui s'appellent les gardes du corps ou le petit sergent-major, etc. Donc il les dépoile, littéralement, il les rend à ce commun de tout un chacun via la nudité. Mais ce rapport à la matière, c'est un point extrêmement important. Et cette matière, je dirais, et l'ouvrage de la main sur cette matière, c'est l'ouverture de la pensée. Y a cette idée chez lui, quoi. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas assez de choses pour nommer. Enfin, il n'y a pas assez de noms pour nommer les choses du monde. Ça, c'est une pensée forte de Dubuffet. On a l'impression que ce qui le met sur cette voie-là, c'est justement cette diversité de choses qui peuvent être créées et qui méritent toutes un nom. C'est une de ces obsessions, quoi, qui va même s'accroître au fil du temps, jusqu'à dire que finalement le langage est incapable de donner à voir la variété du monde. Et on sent bien qu'ici, justement, penser le monde, c'est pas le penser seulement avec le langage et avec les instruments conceptuels traditionnels, quoi. C'est aussi aller du côté d'une taille dans le bois, d'une griffure contre un mur. Ben, ça fait penser, dirait Dubuffet.
Je parlais de votre patience, je crois que je peux donner un exemple. Par exemple, moi, donc, j'ai découvert l'art brut dans les cahiers de l'art brut en 73. En 74, je suis rentré à l'université. J'étais déjà un peu âgé. Et le premier exposé que j'ai fait au séminaire d'histoire de l'art, c'était un exposé sur l'art brut. Ouais. Et j'étais violemment contre l'art brut à cause du pathos du discours sur l'enfermement, tout ça. Et dans votre livre, par exemple, à un moment, vous parlez de la collection de l'art brut, mais donc vers 48-49, et dont 50% sont des œuvres de l'art des fous. Et vous dites, mais il faut s'intéresser à l'autre 50%. Mmh. Et c'est ce qui est bien dans votre démarche, c'est justement que moi, je ne voyais que le pathos, et je trouvais que c'était horrible. En fait, mon idée, c'était que tout le monde avait le droit, à l'époque déjà. Bon, j'aimais déjà aussi beaucoup Dada, j'ai fait les choses en même temps, mais l'idée, c'est que tout le monde avait le droit de s'exprimer, en fait. Et ça me révulsait l'idée que si on était pauvre, il fallait être fou pour avoir le droit de s'exprimer. Enfin, il y avait quelque chose dans ces cartels qui m'insupportaient. Comme j'étais à Lausanne, j'ai assisté à l'ouverture du musée de l'art brut. Je voulais aller enfariner. À l'époque, on n'en tartait pas. Je voulais aller enfariner Thévaux. Chaque fois que je le voyais, après, je l'agressais, tout ça. Et la fondation, je sais pas comment ça s'appelle, ils appellent ça ils s'appellent pas un musée, mais c'est
la
pas
collection
ça.
De l'art brut.
La collection de l'art brut, c'est très bien tenu. C'est devenu un endroit absolument formidable, très ouvert, très aéré, avec des événements. Ça n'avait rien de sacral et c'était assez ludique, en fait, et ça a très bien marché. Puis il y a eu des nouveaux apports, donc par exemple Gaston Teuchère, qui habitait pas très loin de chez moi, qui était vivant, qui était un instituteur, qui dessinait sur l'intérieur des paquets de cigarettes, sur le papier argenté ou doré qui est dans les paquets de cigarettes, et qui était vraiment un personnage hallucinant. Et donc, il y a eu un phénomène d'ouverture, et ce pathos, petit à petit, s'est dissous. Et puis, mais dans un premier temps, on voyait que la folie, et on assimilait, par exemple, le médium à la folie, et puis il restait encore un vague, une vague compulsion un peu naïve, comme ça, tout ça revenait dans un système de pulsion. Et il est bien clair que c'est tout à fait autre chose. Bon. Et puis maintenant, l'art brut, donc quand je parlais d'Indiana Jones, le boulot reste à faire, en fait. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Il faudrait faire une version plus pamphlétaire, plus petite, plus courte.
Tout à fait.
Très musclé. Il y a de quoi faire.
Aujourd'hui, c'est vrai que, enfin, parce que là, vous dites dans les années 70, ça vous rendait dingue, cette affaire de pathos, mais de pathologisation même. Il faut aller carrément là-dedans. Et aujourd'hui, on baigne là-dedans aussi. Hein. Je pense que la question du marché, la plus-value, en fait, c'est la schizophrénie. Et on s'en fout de l'œuvre, au final. Et ça, je veux dire, c'est une espèce de contresens aussi, en quelque sorte, sur le côté positif de l'art brut, peut-être, qui... Il y a une espèce de snobisme, actuellement, qui consiste à dire, mais Dubuffet... C'était un vieux réac, il était dans une démarche où il piquait tout à ces gens-là, et puis c'était un ayatollah, etc., etc. Mais à vrai dire, quand Dubuffet dit « il n'y a pas plus d'art des fous que d'art des dyspeptiques ou des malades du genou », faudrait peut-être prendre la chose au pied de la lettre. et en voir la dimension positive, quoi. Et curieusement, c'était une manière, ça, de définir l'art brut par ce qu'il n'est pas. Quand Dubuffet affirme ça, aujourd'hui, l'art brut égale art des malades mentaux ou de la déficience mentale. Et il faut que l'artiste soit schizophrène, il faut que l'artiste soit trisomique, etc. Pour moi, là, il y a un problème, quoi. Il y a un vrai problème, qui plus est, qui catégorise, et qui plus est, qui reconduit l'exclusion, reconduit la question de la différence et de la marge, au final. Et néglige cet aspect du commun, qui était une chose, je crois, assez importante dans la jeunesse de l'art brut. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup aussi sur cette idée que, finalement, si aujourd'hui on regarde l'art brut comme l'art des fous, pour faire simple, à l'époque, c'était pas si simple que ça. Et ça permettait vraiment de décloisonner, quoi. Il y avait vraiment cet effort-là. Et en ce sens-là, la démarche de Dubuffet avec l'art brut, et finalement, les cahiers le montrent quand même assez bien. Ça, vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais je crois qu'il y a vraiment une approche qui dépathologise chez Dubuffet. Quand il affirme qu'Aloïs n'est pas folle, là aussi, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et très clairement, Dubuffet fait écho aussi, et c'est pour ça aussi qu'il s'entendait bien avec certains psychiatres progressistes de l'époque, c'était qu'il avait mis le doigt sur le fait que l'aliénation mentale, c'est une aliénation sociale, et que les choses ne peuvent pas être découplées, très clairement. Et ça, c'est un point central de l'analyse. Et aujourd'hui, il faudrait effectivement un petit peu rappeler ce point-là de manière systématique, quoi, parce que il y a quelque chose de dégueulasse aussi qui se joue dans cette plus-value. J'appelle ça une plus-value. Je ne sais pas si c'est le terme, mais c'est vraiment quelque chose qui déborde un petit peu. Il y a quelque chose de larmoyant là derrière.
Bon, il y a un nouveau lieu commun qui s'est créé, effectivement. Et l'idéal, c'est une espèce de folie et en plus majorée d'exotisme. Donc, l'art fou japonais, c'est mieux que l'art fou auvergnat. On pourrait vendre aussi l'art fou auvergnat, mais on va avoir un problème de corpus. Il y a un exemple, mais qui peut détailler dans le livre, mais que je trouve absolument fascinant et difficile à expliquer, et qui là aussi rejoint mon discours anti-pathos. C'est Dubuffet reproche à Artaud de ne pas tenir compte de la joie. Ça donne une dimension, mais c'est difficile à entrer en matière, et c'est peu argumenté là dans votre livre, mais je trouve ça formidable parce que les lecteurs d'Artaud, les petits bourgeois qui brandissent Artaud m'ont toujours exaspéré, et tout ce côté pathos, tout ce côté cancer à l'anus et puis drogue et tout ça, tout ce côté hystérique m'a toujours tapé sur les nerfs, et qu'il fasse rentrer une dimension de joie. Et en plus, lui, Dubuffet a l'air quand même très petit bourgeois, quand même un peu psychotique comme ça, et un peu rentré quand même, un monsieur en costume quand même, malgré tout. Cette dimension de la joie est vraiment formidable. On peut penser, alors je parlais de Cobra, il y a une autre histoire en parallèle qui est celle de l'international situationniste, qui est un peu plus tardive, mais la figure du commandeur de Debord en Père Ubu. On a aussi, par exemple, Debord fait une lettre à Constant où il les reproche d'avoir mis le terme « joie » dans un article et lui demande de l'enlever. Il y a une espèce de... C'est pénalisé. Mmh. Et donc ça, c'est... Il y a quelque chose de prime-sautier, là. Et dans les voyages en Suisse de Dubuffet, par exemple, on sent ce côté prime-sautier dans cette débat. Avec Aloïs, ça marche très très bien, hein. L'amour, c'est bon pour nous autres. Le rouge, c'est bon pour nous autres. Les schizophrènes, tout ça, enfin, tout ce discours de midinette cannibale fonctionne extrêmement bien. Mais même dans les œuvres de Wolfi aussi, il y en a chez Souterre, on a quelque chose. Enfin, c'est le rythme, c'est le côté musical, c'est le côté enlevé, c'est le côté achevé, c'est le côté construit. C'est pas...
Dubuffet, il ne cessait de répéter, l'art doit toujours faire un peu rire et doit toujours faire un peu peur. Ouais. Et ça, c'est le sens du grotesque. C'est le moment de la réversibilité des choses, des idées, de la pensée. Et ça, Je crois que je l'écris à un moment dans ce bouquin, c'est quelqu'un qui exagère, du Buffet. Et s'il y a rire, il faut que ce soit un rire exagéré, qui aille jusqu'à les grimaces, qui fasse au final flipper, en quelque sorte. Donc là il y a, ouais, c'est vraiment une affaire de faire éclater. Il y a quelque chose quoi, qui est de l'ordre de la figure de l'excès quoi. C'est quelque chose d'excessif. Et c'est pour ça que le recours au grotesque dont il parle, ça fait penser aussi au carnaval. Ça fait penser, c'est des choses d'ailleurs que Cobra regardait avec une attention très aiguë. D'ailleurs, la rencontre de Yorn et du Buffet, elle se fait sans doute sous le sceau de l'humour en quelque sorte. Même si du Buffet disait qu'il n'y avait pas un atome d'humour dans son travail et que si il y avait une impression d'humour, c'était pour le nier qu'il le mettait en œuvre. Mais il y a toujours quand même une espèce de rire un peu sardonique derrière tout ça qui transparaît. Et d'ailleurs, ses œuvres font relais. Cette idée, quoi. Il y a quand même une forme de violence très drôle.
Oui, il faut qu'on retrouve la flamme, en fait, la chose, le cœur vivant de la chose, la petite flamme qui est absente, le feu follet de la chose, hein, l'essence même du concept, parce que c'est Conrad, en fait, c'est formidable, hein, on n'a qu'à penser au cœur du ténèbre, hein, toujours un peu de peur, de rire,
mais
pas d'ennui. Ouais. Pas d'ennui, donc il y a un côté aventure. Il y a un côté aventure qui se retrouve pas si on fige. Et la grosse contradiction, en fait, du Buffet, c'est sa propre œuvre. Hein. C'est le fait qu'il ait fait une œuvre et qu'il ait fait une œuvre de peintre et qu'il soit arrivé à une maîtrise toujours plus grande. Et la discrépance qu'il y a entre ses travaux à la fin à l'Ourloupe en Sagex, dans ses matières. Très artificielle, et cette grande maîtrise qu'il a, et des œuvres un peu monumentales, et des choses comme ça, et l'aspiration prime sautière à regarder les marguerites au bord de la route. Donc, c'est cette contradiction qui est formidable, c'est cette contradiction qu'il fait vivre, en fait. Cette tension, c'est un il y a un rapport dialectique, voilà quelqu'un qui gère pas son image, qui gère pas, en fait, qui gère ni sa collection, ni son image, ni ses rapports humains.
Tout en la gérant de manière aussi impériale.
Ouais, pour mais le il coup, est violent dans les volte-face aussi. Toute cette violence, en fait, qui est peut-être pas tenable, en fait. Les choses ont tendance à s'institutionnaliser. C'est comme ça, quoi. C'est la destinée humaine. Ça se muséfie. Il y a aussi quelque chose, alors qu'on voit bien avec les phénomènes de muséification, montre la fin de quelque chose. C'est toujours la fin de quelque chose qui était vivant et qui ne l'est plus. Mais le terme de folklore, c'est 1815-1820, quand ça se crée, et la préhistoire, c'est 70-80. Donc c'est des choses qui ont été inventées au 19e siècle. Et donc on peut imaginer que le folklore survit quand même à sa conceptualisation. Mais enfin, il faut aussi, cette dimension de folklore s'inscrit sur la montée des nationalismes. Il n'y avait par exemple pas chez les musiciens d'inscription nationale au 18e siècle. On n'appartenait pas à une nation, on appartenait à un genre musical et on pouvait se déplacer, on pouvait être Handel, naître en Allemagne et devenir anglais. Ce qui n'a plus de sens après. Si on est allemand, on est allemand. Enfin, c'est très récent aussi, les nations, le 19e siècle. Je pense à ça dans le sens de l'invention de l'histoire, donc les collections, la création des musées, la gestion de ces choses, tout. Et il y a quelque chose chez Dubuffet qui a à voir avec l'ethnologie, évidemment, qui est la fin de quelque chose, et la création d'une collection sur la fin de quelque chose. Et la chose a réussi à se survivre sur ses valeurs de sauvagerie. Et donc, si on est en train d'en parler, c'est parce que quand même le concept a marché. Ah, et ouais. Il a magistralement bien marché. Donc le concept fagotise tout. Fagotise à la fois Dubuffet, son œuvre, les collections, tout, quoi.
Peut-être le risque aussi aujourd'hui, c'est qu'il se fige dans la catégorie, quoi. C'est un peu le paradoxe actuel, quoi, autour de la notion d'art brut. Soit cette notion, elle reste opératoire, elle reste critique, clairement. Soit elle se fige finalement dans substitution à la catégorie d'art des fous. Donc
c'est plus flagrant. Alors avec Dada, par exemple, il y avait une exposition Dada à Beaubourg avec un catalogue qui ressemble à un annuaire de téléphone qui était imprimé dans une matière qui est, enfin, c'était fait exprès, je pense, par les graphistes. L'idée, c'était d'avoir tout. les dadaïstes hongrois, les dadaïstes roumains, les dadaïstes bulgares, les dadaïstes sud-américains, tout était là. Et l'ensemble des œuvres était quand même assez sans intérêt, en fait. Ça, la fétichisation marche assez mal. Les matériaux sont souvent très pauvres. C'est des expériences, ça va très vite. Il n'y a pas de développement. Hein, on n'est pas dans cette... C'est pas quelqu'un qui est enfermé qui fait pendant 30 ans la même chose. Ou qui cache ses œuvres sous ce qui n'est pas enfermé, mais qui cache ses œuvres sous son lit et qu'on découvre à sa mort qu'il a fait 600 000 dessins. C'est pas ça du tout. C'est une semaine, j'invente le photomontage. La semaine suivante, j'invente la poésie phonétique. Ça va très vite. C'est des moyens assez pauvres, même s'il y a des inventions graphiques. Mais ça fait pas œuvre. Et c'est le surréalisme qui va gérer ça et qui va faire œuvre et qui va faire une peinture très bavarde, très, très monumentale, qui va, enfin, tous les, aussi bien au niveau des livres qu'au niveau des œuvres. Et donc, l'enjeu de votre livre, c'est quand même de retrouver l'esprit de la chose et non pas la chose. C'est de retrouver, c'est un petit peu comme l'esprit de Dada, c'est de retrouver son esprit et non pas un catalogue d'une exposition Dada à Zurich en 1917, dont on s'en fout complètement. Ce qui est intéressant, c'est d'être dadaïste aujourd'hui. Comment on fait? Enfin, c'est comme ça que j'ai lu votre livre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais...
Moi, je fais travail d'historien là-dessus. Donc, c'est vrai que je regarde cette affaire avec les lunettes du présent, sans doute. Donc, il y a quelque chose qui est aussi... d'un point de vue plus personnel, sans doute une forme de quête aussi pour retrouver ce qui fait sédition dans cette affaire. Je crois que ça, c'est un point important parce que en 10 ans, le champ a complètement changé en plus du côté de l'art brut, quoi. C'est vrai que le capital a pour le coup un peu cadenassé la chose, hein, et du côté des prescripteurs sur ce qui est de l'art brut ou ce qui ne l'est pas, maintenant le capital a son mot à dire et a de quoi se faire entendre très clairement. Et je pense que finalement aussi de publier cette recherche, c'est enfin de la faire déjà, mais de la construire et puis de la restituer, de la publier, c'est sans doute quelque chose aussi qui relève d'une volonté de dire attention, il y a ça là-dedans, c'est beaucoup plus actif, beaucoup plus explosif que ce qu'on nous laisse à croire. Revenir au texte, tout simplement. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'avait déjà fait Céline Delaveau, quoi, qui a travaillé sur cette question du texte de Dubuffet sur l'art brut, quoi, ce qu'il a écrit là-dessus. Revenir aux objets, ça, c'était un point important. Je parle beaucoup des objets, des ouvrages de l'art brut au sein de ce bouquin, en les mettant en relation avec le travail de Dubuffet. L'idée, c'est justement de faire circuler ces choses-là et de se replacer du côté, en fait, de ce dont je parlais tout à l'heure, cette ouverture à la pensée que représente cette opération artistique. Une manière, là, d'un coup, de nous rendre un peu fada, quoi, de nous déranger. Dubuffet parle toujours de l'assiette et des pôles ou de la boussole, et il dit qu'il faut affoler tout ça constamment. Mais finalement, ce que j'essaye de raconter et de relayer au travers de ça, c'est que la question de l'art, il faut que ça se situe aussi sur ce point-là, quoi. Quelque chose qui nous oblige à nous mettre de travers, en fait, pour repenser quelque chose qu'on pensait de manière différente. Enfin, c'est redistribuer un peu la pensée et mettre un petit peu en cause, en doute, les grilles toutes prêtes. Et ça, oui, j'espère que ça se sent à la lecture de ce livre, quoi. Cette question que l'art brut, c'est un truc qui déclasse, c'est un truc qui met à mal tous les processus de mythologisation du savoir, tous les principes de fixation de la pensée, c'est quelque chose d'énergique, quoi. Ça fout le boxon, l'art brut. Et c'est ce que voulait Dubuffet, en le montrant, en le cherchant déjà, c'était lui-même se déranger, en quelque sorte, mais en le montrant aux autres aussi, il y avait l'affaire de déranger. Mais vraiment, comme on dérange une pièce, comme on met sans dessus dessous, quoi, on met le désordre, très clairement, pour pouvoir penser les choses de manière autre, de manière différente, de manière renouvelée, quoi. Et je trouve qu'il y a une forme de fécondité là-dedans qui est stimulante.
C'est amusant aussi parce que maintenant, on a une espèce de revendication tout à fait légitime. Enfin, les femmes dans l'art, donc c'est une problématique qui est très présente. On a des expositions. On avait Berthe Morisot à Orsay, pour prendre un exemple, quelqu'un qui n'a jamais exposé de son vivant, qui a vendu 2 toiles qu'on connaît parce qu'elle fréquentait Manet. Sa sœur a arrêté de peindre parce que son mari n'était pas d'accord qu'elle fasse la peinture, etc. Et dans le corpus de l'art brut, il y a des femmes, par exemple. Donc si on prend n'importe quel aspect comme ça, on va retrouver... Et donc c'est la contradiction qu'il faut laisser dans sa tension et qui reste ouverte, c'est effectivement entre Dubuffet artiste et l'homme du commun à l'ouvrage. C'est cette capacité à ouvrir en dehors des cadres académiques, en dehors des sillons de tracés par la société, des possibilités d'expression personnelle, parce que dans le cadre de la division des tâches, tout cela est confisqué par une corporation professionnelle. On peut penser, par exemple, puisque je parlais de musique là tout à l'heure, il y a quand même eu des siècles où tout le monde pratiquait un peu la musique, et on est arrivé à un stade où plus personne ne pratique la musique. Il faudrait faire un pamphlet sur du buffet punk, le faire avec une crête. Il y a quelque chose à faire. Enfin, j'aime beaucoup votre ouvrage, mais j'imagine que c'est pas lire 500 pages, c'est pas vraiment quelque chose que les gens font couramment. Avec un petit pamphlet de 60 pages rassemblant l'essentiel, il y a quelque chose, c'est une torche, quoi. Il y a moyen de foutre le feu en utilisant ça, c'est vraiment très bien. Donc Baptiste Brun, Jean Dubuffet et la besogne de l'art brut, critique du primitivisme, les presses du réel. Tu nous remets un petit morceau de musique, on est très tôt. Je vais laisser la conclusion à Monsieur Brun. Donc je vous laisse conclure. Alors qu'est-ce que j'ai manqué d'essentiel ? La réception
La réception, c'est...
À la fois de l'art brut et du buffet.
Ouais, aujourd'hui c'est intéressant. Là, je viens de faire une expo notamment à Marseille avec quelqu'un qui s'appelle Isabelle Marquette, et où on montrait justement du buffet, ses recherches, etc. Et il y a beaucoup de monde qui est venu voir cette exposition, et les gens étaient excités par ça. Et finalement, en fait, c'est devenu conscient plutôt, je me suis rendu compte, mais je crois que je le savais intérieurement, qu'il y a une réception populaire de Dubuffet. Et ça, c'est une chose importante. Je crois que c'est un artiste dont on parle quand on est gamin à l'école, dans les écoles, les maternelles et autres. Voilà, c'est on mobilise Dubuffet, on mobilise la question de l'art brut. D'ailleurs, il y a beaucoup d'éditions Dubuffet pour les petits ou l'art brut raconté aux enfants, etc. Mais ça, ça a un sens particulier qu'il s'agirait aussi d'interroger, parce que d'un coup, il y a une chose là qui est de l'ordre de cette réception populaire. Ça, je trouve ça intéressant, parce que finalement, Dubuffet, il y avait 3 trucs dans son affaire d'homme du commun. Il y avait une manière de se définir chez lui, parce que il n'était pas artiste à l'origine, professionnel. Donc ça, c'était un point intéressant pour lui, que de finalement assumer sa trajectoire de négociant en vin, qui était dans une activité, qui était dans l'ensemble des activités à l'époque, mais qui n'était pas hors du commun comme l'est l'activité de l'art. L'homme du commun, c'était aussi une manière de désigner le sujet de sa peinture. Sur la couverture du livre, c'est 2 bonhommes qui sont en train de pisser contre un mur graffité. Voilà, c'est tout un chacun. Ça peut arriver, quoi. Comme on dit merde, qu'on soit marquise ou qu'on soit clodo. Et puis, la troisième chose, finalement, c'était l'adresse. Du Buffet, il voulait s'adresser aux communs. Il disait, il y a un des très beaux textes de Dubuffet, il y a déjà tout dedans, c'est un texte de 45 qui s'appelle « Avant-projet d'une conférence populaire sur la peinture », qui parfois frise bien le populisme, hein, ça c'est clair, mais il y a une volonté ici de dire, bah voilà, moi l'art, il faudrait l'accrocher dans les bistrots, dans les gares, dans les postes, etc., et moi je veux faire ça. Alors bon, vœux pieux, pour le coup, et la contradiction à nouveau là jaillit, quoi, malheureusement, Dubuffet, aujourd'hui, de l'exposer dans une poste, ça va être un petit peu difficile. Mais il n'en reste pas moins que cette adresse-là, au commun, quoi, il me semble que ça fonctionne un peu.
Et le succès populaire de la Halle Saint-Pierre est flagrant. Bah,
bien sûr. La Halle Saint-Pierre, c'est un lieu essentiel sur ces questions-là, quoi, qui, depuis 20 ans, est au taquet et représente un petit peu, je dirais, la pointe de quelque chose qui a été mis en place il y a des décennies et qui a su défendre contre vents et marées pendant un moment où tout le monde s'en foutait cette question-là. Et là, a anticipé finalement ce qui se joue aujourd'hui, c'est le succès de cette notion d'art brut à droite, à gauche, en haut et en bas.
Ouais,
et
ce lieu a réussi à ne pas sombrer dans la sacralisation de la chose. Enfin, c'est resté populaire, en fait.
Tout à fait, la Halle Saint-Pierre, c'est un lieu populaire.
Ça montre que c'est possible.
Ouais. Clairement.
Bon, écoutez, merci.
Ben,
merci d'être
vous.
Venu, c'est formidable, on est très contents. Merci Gilles.